Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Bonsoir aux auditrices, aux auditeurs de Principe Actif. Et puis, c'est le jour ou jamais, bien sûr, bonne année.
Bonne année.
Bonne année.
Voilà.
Bonne année.
On vous souhaite plein de choses positives, vous tous qui nous écoutez. Et puis, on espère aussi, on nous en souhaite aussi à nous-mêmes, on espère qu'on aura des avancées intéressantes sur le terrain des droits humains, puisqu'on est là pour ça, bien sûr. Et bon, malheureusement, pour l'instant, les nouvelles sont pas au beau fixe, on dira, pour ce début du mois de janvier. Mais enfin, on va vous en reparler.
Ah, moi, j'en ai des bonnes, quand même.
Oui, j'en ai des bonnes. Mais faut, on perd pas notre envie d'agir pour autant. Loin de là. Il nous en faut plus pour arrêter, pour nous faire tomber les bras.
Ah bah, de toute manière, faut savoir ce qui se passe. Même si c'est dur, faut mieux le faire connaître. C'est important.
Exactement. Et ce soir, avec moi, pour vous souhaiter la bonne année, il y a Edith.
Bonsoir.
Il y a Claire-Lise.
Bonsoir.
Et il y a Ronan qui est en train de caler ses enregistrements derrière la console.
Bonsoir.
Voilà. Donc, et puis moi-même.
Didier.
Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, l'actualité nationale par rapport aux droits humains, c'est surtout le projet de loi immigration dont vous avez forcément entendu parler. Et puis aujourd'hui, il y a une déclaration de Monsieur le Président de la République, puisqu'il était dans le Nord, il était du
française.
Oui, la République française, Monsieur Macron. Il était du côté de
Calais.
De Calais. Et bon, j'avais quelques échos tout à l'heure sur la radio, mais bon, j'ai pas eu le temps de noter précisément tout ce qu'il a dit. Ça n'avait pas l'air d'être extrêmement positif par rapport à notre point de vue à nous. Mais il y a quand même Amnesty qui a publié un petit communiqué, donc je vais vous le lire. Un petit communiqué sur cette loi. Sur l'avant-projet de loi.
On sera en février.
Voilà. C'est l'avant-projet de loi sur la régulation des flux migratoires, comme on dit chez les gens bien informés. Et donc, c'est un communiqué d'Amnesty qui n'est pas très optimiste, qui n'est pas très. Voilà, qui est très critique et très à l'écoute de ce qui va se passer. Et qui dit les choses suivantes. Le gouvernement a révélé les grandes orientations du projet de loi réformant le droit d'asile et le droit des étrangers. Au nom de l'efficacité, les droits des personnes étrangères ou réfugiées risquent fort d'être atteints. Analyse. L'idée du gouvernement pour faire face à la hausse du nombre de demandeurs d'asile en France est d'accélérer toute la procédure. Et donc la rapidité veut prendre le pas sur la qualité. Mais la solution avancée consiste principalement à faire peser la réduction des délais des personnes qui demandent l'asile. Ainsi, en cas de rejet de leur demande d'asile, les délais de recours devant la Cour nationale du droit d'asile sera divisé par 2 à 15 jours. Donc il était à 30 jours auparavant. Si la loi est adoptée en l'état, les réfugiés auront pour faire leur recours 4 fois moins de temps qu'une personne qui souhaite contester un permis de construire. Alors que dans le cas des réfugiés, leur vie et leur sécurité peut être en jeu. Par ailleurs, le recours devant la Cour pénale du droit d'asile n'empêchera plus, la Cour nationale pardon, du droit d'asile n'empêchera plus que certaines personnes soient renvoyées dans leur pays, même si elles y sont en danger. En effet, les personnes qui viennent d'un pays considéré comme sûr pourront être renvoyées dans leur pays avant même que la Cour nationale du droit d'asile ne se soit prononcée sur les craintes encourues dans leur pays. Là, je fais une petite parenthèse personnelle pour ceux qui nous écoutent depuis longtemps. J'avais fait une émission il y a bien 2 ans, facilement maintenant.
J'ai même 3.
Oui, où je parlais effectivement de la demande d'Amnesty de rendre le recours devant la Cour nationale du droit d'asile, donc pour les personnes qui ont été déboutées par l'OFPRA et qui font appel, de rendre ce recours suspensif à toute notion de renvoi de ces gens-là vers un pays quelconque. Et en signalant pourquoi, sur un plan juridique, la situation de la France, qui était entre deux chaises par rapport à ça, était parfaitement illégale. Et bien, M. Macron nous remet ça sur le tapis en disant qu'effectivement, le recours devant la Cour nationale du droit d'asile ne serait absolument pas suspensif pour la décision prise par l'OFPRA. Donc, encore une fois, la France se retrouvait en situation illégale par rapport au droit international.
Oui, et puis on peut dire aussi les pays sûrs, on en a aussi parlé, oui, ça, parce que c'est pas pareil dans, si on est en France ou dans, une autre, dans un autre pays d'Europe. On ne considère pas les mêmes pays sûrs, donc c'est quand même très très étonnant comme notion.
C'est une notion que Amnesty demande la disparition pure et simple. Alors, Amnesty continue sur ce communiqué. Nous l'avions signalé à Emmanuel Macron lorsqu'il était candidat. Accélérer l'examen des demandes d'asile est un objectif positif, mais il ne doit pas conduire à réduire les droits des personnes. Les conditions dans lesquelles des personnes déposent une demande d'asile ont souvent un impact sur l'issue de la procédure. Demander l'asile n'est pas une chose aussi aisée que l'on pourrait penser. Il ne suffit pas de cocher des cases. Il faut détailler son histoire, apporter des précisions, convaincre, se remémorer des persécutions, de souvenirs atroces, dans un pays nouveau, aux lois inconnues et aux pratiques différentes. Traitement des migrants, la rétention plus longue. Le gouvernement ne cesse d'opposer réfugiés et migrants économiques, les premiers devant être accueillis, alors que les seconds doivent être renvoyés. Outre le fait que cette distinction est simpliste et réductrice, elle justifie la mise en place dans le projet de loi de mesures coercitives à l'encontre des hommes, des femmes et des enfants qui ne sont pas admis à séjourner sur le territoire français. Le gouvernement entend ainsi allonger la durée de rétention de 45 jours actuellement à 3 mois. Dans certains cas, des personnes pourront être détenues pendant près de 4 mois, 115 jours exactement. Priver de liberté des êtres humains pour la seule raison qu'ils n'ont pas un document administratif n'est pas une mesure anodine. Cela signifie ne pas être libre de ses mouvements, ne pas pouvoir voir qui l'on veut, vivre dans un espace enfermé et surveillé dans l'attente et parfois l'angoisse d'un renvoi dans son pays. Tous les textes internationaux qui régissent la détention des personnes prévoient qu'un État ne peut y recourir qu'en dernier recours, si aucune alternative n'est disponible, et uniquement de façon proportionnée. Alors, Amnesty précise à la fin de son communiqué que ces textes-là, il s'agit d'une première analyse sur les principales mesures annoncées et que, bien sûr, Amnesty attend la version définitive et écrite du projet de texte pour livrer une analyse plus complète.
Et il n'y a pas qu'Amnesty, il y a beaucoup d'ONG.
Oui, oui.
Hein.
Ah, oui, tout, oui. À fait, tout à fait. Donc, voilà. Et donc, ça m'amène aussi à vous dire un petit mot sur ce qu'on vous avait longuement développé dans notre dernière émission, celle du 27 décembre, à savoir l'inculpation d'une militante d'Amnesty, Martine Landry, dans les Alpes-Maritimes, ce qui est une grande première pour Amnesty France. On inculpe les militants maintenant. Donc voilà, et pour signaler que donc son procès, qui était convoqué le 8 janvier 2018 au tribunal correctionnel de Nice, a simplement été renvoyé au 14 février. En fait, rien n'a été décidé. Le juge estimant qu'il n'avait pas suffisamment d'éléments sur les deux mineurs isolés dont Martine avait pris la défense, enfin dont elle s'était occupée. Donc le procès est reporté au 14 février. Bien évidemment, les gens d'Amnesty, aussi bien de Paris que les gens localement présents, étaient présents à l'audience. Ils le seront de la même façon le 14 février. Martine a quand même remercié tous les gens qui s'étaient déplacés. J'ai vu quelques photos sur Facebook. Il y avait apparemment beaucoup de gens qui étaient là devant le tribunal. Tant mieux. Donc voilà. Bon, comme on a commencé l'émission et l'année pour vous parler des migrants et des réfugiés, que je pense que c'est un sujet qui va longuement nous préoccuper pendant toute l'année à venir. On va vous repasser, alors c'est une rediffusion pour ceux qui nous écoutent.
Rediff de voilà. 2018.
Exactement. La rediff de 2018, on va vous repasser, alors ça dure 10 minutes, mais c'est bien mieux expliqué que ce qu'on pourrait vous dire nous. Le son d'une vidéo qui est sur le site d'Amnesty, que vous pouvez voir bien évidemment, et qui est consacrée aux réfugiés. Voilà,
on oui, parce que vidéo, ça ne vous gêne pas là, vous ne voyez rien.
Ben hein. Non, regardez ben la radio. Mais là, j'ai bien précisé parce que Renan m'avait repris l'autre.
Et pour une fois, je ne dis rien.
Voilà, Renan m'avait repris l'autre fois, mais là, je précise bien qu'il
s'agit. Les résolutions.
Qu'il s'agit du son de la vidéo, mais le son se suffit à lui-même, mais ici, il y a les images en plus, c'est encore mieux.
Or, pour comprendre, les réfugiés. Chaque jour dans le monde, des milliers de personnes prennent la décision la plus difficile de leur existence. Partir de chez elles pour fuir la guerre, la torture, les persécutions, l'extrême pauvreté, dans l'espoir d'un avenir meilleur. Plus de 244 millions de personnes ne vivent pas dans leur pays de naissance, soit environ 3% de la population mondiale. Qu'on les appelle migrants, réfugiés ou demandeurs d'asile, derrière ces mots, les réalités sont multiples. Et trop souvent, ces hommes, ces femmes et ces enfants forcés de fuir ne sont bienvenus nulle part. Pour y voir plus clair, il faut commencer par quelques définitions. Qu'est-ce qu'un migrant ? C'est une personne qui se déplace d'un pays à un autre. Un migrant est en situation régulière lorsqu'il possède un permis de travail ou de résidence, ou en situation irrégulière quand les autorités du pays où il souhaite résider ne lui délivrent aucune autorisation. Qu'est-ce qu'un réfugié ? C'est une personne qui fuit la violence ou la persécution dans son pays, ce qui la contraint à demander la protection d'un autre État. Qu'est-ce qu'un demandeur d'asile ? C'est une personne qui a quitté son pays en quête de la protection d'un autre État et qui n'a pas encore obtenu de réponse. Il faut aussi clarifier la notion de droit d'asile. Le droit international dit que c'est le dernier des droits lorsque tous les autres ont été bafoués. Une sorte de rempart contre l'arbitraire et l'inhumain. C'est-à-dire... La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 reconnaît que le droit d'asile est un droit universel et inconditionnel. La Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés datant de 1951 va plus loin en interdisant de renvoyer les réfugiés dans des pays où ils risquent d'être persécutés. C'est le principe de non-refoulement. Donc, afin de respecter ces principes, les États doivent garantir la possibilité de solliciter l'asile. Les États sont responsables des conditions d'accueil des demandeurs d'asile. Concrètement, ça veut dire qu'ils ont l'obligation de garantir à tous, sans discrimination, les droits humains fondamentaux. Se nourrir, se vêtir, se loger, se soigner, le droit d'aller à l'école pour les enfants. Les demandeurs d'asile doivent être informés, dans une langue qu'ils comprennent, des services dont ils peuvent bénéficier. Et vraiment, pas seulement en théorie. Les personnes reconnues réfugiées doivent impérativement être protégées par l'État qui les accueille en attendant de pouvoir rentrer chez elles, si les conditions sont un jour réunies. Lorsque les situations de conflit ou de violation des droits humains dans les pays d'origine se prolongent, les réfugiés doivent être en mesure de reconstruire leur vie dans le pays d'accueil et avoir la possibilité d'en acquérir la nationalité s'ils le souhaitent. En réalité, le respect de ces droits se heurte à la fameuse souveraineté des États, c'est-à-dire leur droit à eux de faire ce qu'ils veulent au nom de leur indépendance. Alors oui, la majorité des États s'accordent sur la nécessité de protéger les réfugiés et sur les valeurs humaines qui entourent l'asile. Mais une fois que ça c'est dit, ils sont loin d'assumer leurs responsabilités. Il faut dire que la Convention de 1951 n'impose rien pour respecter ces principes. Du coup, les États en profitent pour mettre en place des procédures insuffisantes ou carrément restrictives qui n'offrent pas aux réfugiés la protection attendue. L'une des méthodes les plus efficaces, c'est l'amalgame qui permet de refouler les réfugiés sous couvert de politiques d'immigration. L'autre méthode, c'est une mauvaise volonté, brutale et inhumaine. Fermeture des frontières, absence de procédures accessibles à tous, conditions d'accueil inacceptables, les politiques de dissuasion de certains gouvernements et l'absence d'un vrai système de solidarité menacent sérieusement le droit d'asile. C'est comme ça que l'Australie a transféré de force des réfugiés à Nauru, ou que l'Union européenne les maltraite en voulant les renvoyer en Turquie, depuis l'accord passé en mars 2016. L'Union européenne n'a vraiment pas à être fière de sa politique. Elle fait le choix très clair du contrôle plutôt que de la protection. Opérations conjointes aux frontières grecques, surveillance de la Méditerranée, financement des programmes nationaux de contrôle des frontières ou coopération avec la Libye, ce n'est pas beau à voir. Et ça se passe comment, en vrai, quand on est réfugié ? Dans de nombreux pays, les conditions d'accueil des demandeurs sont déplorables, voire inexistantes. Certains sont maintenus en détention jusqu'à ce qu'ils soient reconnus réfugiés ou renvoyés. D'autres sont victimes de discrimination ou de violence orchestrées ou tolérées par les autorités. Réfugiés au Liban, en Turquie, en Jordanie, en Égypte, en Irak, les millions de personnes qui ont fui la guerre en Syrie vivent dans des conditions extrêmement dures. Mariage forcé, travail des enfants, accès insuffisant aux denrées de base ou aux soins médicaux, leur situation est insupportable. Des milliers de personnes qui partent d'Amérique centrale et traversent le Mexique sont enlevées, tuées et violées chaque année. Il faut bien comprendre que sans droit de passage, il n'y a pas de droit d'asile possible. Le fait d'empêcher des gens de traverser une frontière est une violation du principe de non-refoulement. On ne va pas se voiler la face, empêcher quelqu'un de fuir revient à se rendre complice des menaces qu'elle subit dans son pays. Aux abords de l'Union européenne, de nombreux réfugiés n'atteignent même pas la terre ferme, car le durcissement de la forteresse Europe et l'absence de voies sûres et légales ne leur laissent comme solution que des traversées mortelles sur des bateaux bondés et en très mauvais état. En France, plusieurs milliers de réfugiés vivent dans des campements de fortune ou des squats. Les démarches administratives pour obtenir le statut de réfugié sont trop souvent compliquées. Affaiblis par les années de calvaire, mal en point psychologiquement, logés dans des conditions insalubres, craignant en permanence pour leur sécurité et celle de leur famille, les personnes qui se lancent dans ce processus partent perdantes d'avance. Le constat est donc accablant. Il n'existe aucun continent où ce fameux droit d'asile, dernier rempart contre l'arbitraire et l'inhumain, est respecté. Cela donne l'impression que les réfugiés n'ont aucun droit et qu'ils sont un danger. Il n'est plus question d'hommes, de femmes, d'enfants en souffrance, mais d'un phénomène effrayant qu'il faudrait gérer et éradiquer. Inévitablement, la peur prend le pas sur la solidarité avec son cortège de violence, de racisme et de discrimination. Déshumanisés, ces hommes, ces femmes et ces enfants pour qui l'asile est l'ultime rempart contre la persécution perdent leur dignité. La façon dont les questions de migration sont présentées par les responsables politiques et les médias influence notre regard sur les réfugiés. Ces derniers sont souvent pris comme boucs émissaires et désignés comme des clandestins, des resquilleurs, voire des envahisseurs exploitant la générosité des pays d'accueil. Il est question de flux, de flots, de vagues de réfugiés. Les États européens, notamment, entretiennent le spectre de l'invasion et mettent en avant les difficultés et le coût engendré par les afflux massifs. Et ça va plus loin. En plus d'être soupçonnés d'abuser du système, les réfugiés représenteraient, selon certaines déclarations des États, une menace pour la sécurité nationale. Parmi les réfugiés se trouveraient potentiellement des criminels, et les États devraient s'en protéger. Pourtant, contrairement aux idées reçues sur l'envahissement de l'Europe, par exemple, il faut savoir que les principaux mouvements de réfugiés ne vont pas des pays du Sud vers des pays du Nord. La majorité des réfugiés fuient dans les pays voisins, principalement des pays en développement. C'est comme ça que le plus grand pays d'accueil est la Turquie. Et puis, en y regardant de plus près, on voit bien que les personnes qui sollicitent l'asile demandent ce que l'on demanderait tous. Elles demandent simplement de pouvoir vivre en sécurité, regarder à nouveau devant elles, voir grandir leurs enfants sans avoir peur de ce qui peut leur arriver. Ni envahisseurs ni criminels, juste des personnes qui ont l'espoir d'une vie normale et qui comptent sur la solidarité entre êtres humains. Car oui, protéger les réfugiés et respecter le droit d'asile, c'est avant tout et seulement une question d'humanité et de respect. Les frontières doivent rester ouvertes aux personnes en demande de protection. Aucun argument économique, politique ou sécuritaire ne peut justifier de refouler ou de renvoyer une personne là où elle risque d'être torturée, persécutée ou assassinée. Car il faut aussi se rappeler que même si le nombre de réfugiés à travers le monde a atteint de nouveaux sommets historiques, ils ne représentent que 0,3% de la population mondiale. Ce qui signifie que la communauté internationale est tout à fait capable de protéger collectivement cette population en détresse s'il y avait un véritable partage des responsabilités. Hébergement convenable, nourriture, eau, accès aux soins et à l'éducation, le manque de moyens financiers est l'un des principaux obstacles à l'accueil digne et respectueux des réfugiés. C'est pourquoi le principe essentiel à la réalisation des droits de tous les réfugiés est celui du partage des responsabilités. Pour rendre opérationnel ce principe, il faut une aide financière humanitaire plus importante pour les premiers pays d'accueil, afin de leur donner les moyens d'organiser un accueil digne de ce nom. Cela évitera que les enfants travaillent au lieu d'aller à l'école pour aider à subvenir aux besoins de la famille, ou que les jeunes filles soient mariées de force pour ne plus être une charge financière. Plus de confort, de prise en charge, de soins, d'éducation, les réfugiés seront plus enclins à rester dans le premier pays d'accueil, proche du leur, plutôt que de verser de l'argent à des passeurs pour aller, à leurs risques et périls, en traversant par exemple la Méditerranée vers un autre pays. Réinstallation, transfert de réfugiés, voie légale, réunification des familles, le partage de la responsabilité de l'accueil des réfugiés est aussi une pierre angulaire de la solution à la crise. Cela permettra à des personnes très vulnérables, comme des victimes de la torture, des personnes handicapées ou malades, des personnes âgées, des jeunes enfants, des mères seules, de partir dans les pays les mieux adaptés pour les recevoir. Ce sera aussi un moyen de permettre à celles et ceux qui veulent rejoindre des proches dans un pays de le faire sans mettre leur vie en danger. Ce partage de responsabilités peut prendre plusieurs formes, comme un nouveau mécanisme de réinstallation des réfugiés vulnérables, contraignant tous les pays à accepter une proportion de la population mondiale de réfugiés vulnérables. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés estime en effet qu'environ 1,2 million de personnes sont vulnérables et ont à ce titre besoin d'une réinstallation. Or, le nombre de places de réinstallation proposées ne tourne chaque année qu'autour de 100 000. Cela pourrait aussi passer par un nouveau mécanisme mondial de transfert des prochains réfugiés qui permettrait, en cas de crise soudaine comme celle de la Syrie, de re-répartir, de rééquilibrer l'accueil en fonction des capacités propres à chaque pays. Des solutions existent. Elles sont pragmatiques, de bon sens, et font appel simplement à la solidarité et au partage des responsabilités comme on se doit de le faire dans toutes les familles. Alors pourquoi pas dans la grande famille humaine ? Et d'ailleurs, comme le disait Martin Luther King, nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, ou nous allons mourir ensemble comme des idiots.
Donc voilà, vous venez d'entendre effectivement ce son fait par Amnesty France. Qui résume très très bien la situation effectivement et toute la politique que nous on défend vis-à-vis des réfugiés principalement et des migrants aussi mais principalement des réfugiés. Et par rapport à ce thème des réfugiés, il y a Claire Lys qui va vous dire quelques mots ou un petit peu plus peut-être d'ailleurs sur
oui, parce que ça fait longtemps que tu n'es pas venue à la radio.
Si je suis venue à l'émission qu'on avait fait
la dernière fois,
elle a plein de choses à dire.
Donc sur les mineurs isolés, mais ça va nous parler d'actualité locale.
Oui, c'est ça. Au niveau de l'actualité locale, déjà la dernière fois, je vous parlais de, puisque je suis aussi militante au CFED Asti d'Evreux, et on accueille tous les samedis lors de la permanence des des personnes qui viennent pour demander de l'aide dans la régularisation de leurs papiers, ou des personnes qui sont demandeurs d'asile et qui n'arrivent pas à avoir un rendez-vous à la préfecture de Rouen, et ça tarde. Et si ça tarde trop, ils se retrouvent en procédure accélérée. Ou des gens qui viennent nous demander de l'aide pour leur récit, puisque effectivement, dans le reportage là, qu'on écoutait, ils disaient que ce n'était pas simple pour des réfugiés de demander l'asile en France et que c'était assez complexe. Pour certains d'entre eux qui ne parlent pas français, il faut les aider. Donc ils font leur récit en anglais, il faut les aider à traduire leur récit. Donc on se remet à l'anglais, et pour les aider, puisque l'OFPRA n'accepte que les récits en français, et n'accepte que les preuves en français. Donc il faut trouver des traducteurs, interprètes, assermentés, donc qui sont payants, pour pouvoir traduire les preuves qu'on fournit devant l'OFPRA ou la CNDA. Et je vous disais donc au mois de décembre qu'on était de plus en plus souvent confrontés, alors que nous on ne reçoit normalement que des majeurs ou des familles. On a vu passer beaucoup de mineurs isolés et qui se retrouvaient livrés à eux-mêmes. Et il y a eu un article qui, là, en début d'année, qui est paru. Alors, il y a deux articles. Il y en a un qui était sur Paris-Normandie et l'autre qui est paru dans La Dépêche le vendredi 5 janvier 2018. Et donc, c'est nos collègues du RSF 27, du Réseau d'éducation sans frontières, qui partagent le local prêté par la mairie d'Évreux avec Amnesty International. Et je pense qu'on partage plus qu'un local, mais qu'on partage aussi un combat. Et donc, les gens de RESF 27 ont fait un papier pour parler de deux jeunes mineurs condamnés à la rue. Deux jeunes qui sont originaires de Guinée-Conakry, qui s'appellent Fodé et Issiaka. Donc Fodé, il a déposé un recours puisqu'il est à la rue, il a 15 ans, il a des papiers et en fait l'ASE ne veut pas reconnaître qu'il est mineur. Et donc,
alors l'ASE, c'est l'aide sociale à l'enfance. Oui, il doit les accueillir dans des locaux.
Donc on leur refuse l'hébergement. Et donc, demain, 17 janvier, la justice délivrera donc un premier élément de réponse. Mais l'avocat qui va défendre Fodé, David Boyle, ne se berce pas d'illusions. En droit, il n'existe pas de ni-ni. Nous ne sommes donc pas confrontés à une situation de vide juridique, mais on peut d'ores et déjà supposer que l'aide sociale à l'enfance va faire appel. Et comme la procédure n'est pas suspensive, ces jeunes, qu'on se renvoie comme une patate chaude, ne verront pas leur quotidien s'améliorer. Donc, en fait, Fodé et Issiaka, ils ont moins de 16 ans, ils ont des papiers qui le prouvent, mais donc l'aide sociale à l'enfance refuse de les croire. Ils ont pris des risques insensés pour s'émanciper, non pas pour le plaisir de traverser la Méditerranée, hein, mais pour venir en France, pour fuir des dangers. Donc pour Vincent Breuil, qui est membre du réseau d'éducation sans frontières, le cas de Fodé et d'Issiaka est symptomatique d'une politique migratoire qui rogne sur les libertés et le devenir de jeunes contraints de fuir leur pays, ravagés par la guerre, la famine ou les crises politiques. Originaires de Guinée-Conakry, Fodé et Issiaka sont arrivés cet automne à Évreux, au terme d'un périple durant lequel ils ont connu les pires angoisses et ont vu mourir plusieurs proches. La France, terre d'espérance, les deux jeunes gens ont rapidement déchanté, confrontés à une administration pour le moins pointilleuse, doux euphémisme. Sous des prétextes fallacieux, l'aide sociale à l'enfance a refusé de les reconnaître comme mineurs. Elle n'a même pas accordé de crédit à leur papier d'identité, déplore Danielle Jugant-Tullier, militante de RESF. Du coup, les deux Guinéens ne peuvent revendiquer un hébergement digne de ce nom, alors que la préfecture les considère comme mineurs. Donc on nage en plein délire.
La préfecture
considère comme mineurs, donc ne les prend pas dans les structures pour majeurs. Et l'ASE refuse de les aider comme mineurs.
Ben oui, c'est ce qu'on appelle se renvoyer la patate chaude. Quoi. C'est ça, voilà. On trouve des arguments.
Donc c'est la politique du ni-ni. Ils sont confrontés à la politique donc, du ni-ni, ni majeur, ni mineur.
Mais la réalité, elle est terrible pour eux.
C'est une politique génératrice de grands dangers. Donc l'institution va dans le mur, les jeunes également, dans la mesure où ils sont laissés à l'abandon alors qu'ils devraient être protégés. qui a, donc ça, c'est l'analyse des responsables de RSF qui, bien sûr, ont saisi le juge. Et donc, demain, le juge est saisi, en tout cas, de l'affaire du jeune Faudé. Et bon, j'espère qu'il y aura une issue favorable, bien que souvent, effectivement, l'ASE fait encore appel de la décision. Et pendant ce temps-là, ce sont des jeunes
qui n'ont pas d'hébergement, qui n'ont pas d'école.
Voilà, privés d'hébergement, mais aussi privés de scolarisation et de tous les droits, du droit à la santé, enfin de tout ce qui pourrait s'accompagner pour eux. Donc voilà, une petite pensée pour ces deux jeunes. Enfin, il n'y en a pas que deux, hein, malheureusement. Il y en a plusieurs qui sont dans ce cas-là, dans le département actuellement. Et pour revenir justement à ce qu'ils sont amenés à vivre, moi je vais vous parler d'un jeune homme, donc je ne vais pas vous dire son prénom, mais que j'accompagne actuellement dans sa demande d'asile, et qui, pour essayer justement d'échapper à ça, s'est fait passer pour un majeur. Parce qu'arrivé en Italie, eh bien, là où il était, l'hébergement c'était pour les majeurs. Il n'y avait rien pour les mineurs. Donc, en fait, il s'est fait passer pour un majeur. Et il est arrivé en France, déclaré majeur, alors qu'il a 16 ans et demi. C'est aussi un jeune qui vient de Guinée. Et donc, comme il est passé par l'Italie, bah, il s'est retrouvé en procédure Dublin. Donc, en procédure voilà. Dublin, avec un risque d'être renvoyé en Italie.
L'endroit où il a arrivé voilà. La première fois en
et
Europe.
Ce jeune homme, quand il m'a raconté son récit, il vient de Guinée forestière, où il y a eu, en 2013, des affrontements ethniques entre les Guerzés et les Konyanté. Lui fait partie des... Enfin, sa famille était originaire Konyanté. Et il a vu mourir son père à coups de machette. Sa mère est tombée dans le coma et est décédée quelques semaines plus tard. Et après, il a été élevé par son grand-père à Conakry. Donc, au bout de 2 ans, comme c'était la misère, il est parti. Il a fait tout un périple en Afrique. Je crois qu'il a traversé tous les pays qui sont autour. Il est passé par le Mali, le Bénin, le Burkina Faso. Enfin, il s'est retrouvé en Algérie. Et à un moment donné, il est passé par la Libye. Et quand il raconte son périple par la Libye, c'est terrible, quoi. Il s'est fait attraper par une bande et il a été réduit en esclavage et vendu comme esclave. Ben, ce jeune de 16 ans et demi, quand il raconte comment un monsieur un jour est venu l'acheter, on est en 2018, je vous assure que moi, ça... Là, ça m'a foutu les miquettes, mais grave, comme vous dites souvent.
Tu l'as pressé, c'est bien.
Oui. Et donc, il y a une pétition qui est toujours sur le site d'Amnesty, et c'est pour ça que je vous parle de ce jeune garçon. C'est une pétition « Stop à la détention et à la vente des réfugiés et des migrants en Libye ». Donc, cette pétition, elle a pour l'instant 2970 soutiens. C'est pas beaucoup.
Non, c'est pas beaucoup. Non.
Et elle est valable jusqu'au 31 mars 2018. Donc, aidez-nous à atteindre les 50 000 signatures, s'il vous plaît, parce que 2970,
ça doit pouvoir, tout le monde.
65 000, non.
Donc, aidez-nous à atteindre... Donc, c'est sur le site d'Amnesty, et le texte de la pétition, c'est « Torture, détention, exploitation et viol sont des horreurs quotidiennes pour de nombreux réfugiés et migrants piégés en Libye. Mais au lieu de mettre fin à ces atteintes, l'Europe aide la Libye à piéger ces personnes dans l'enfer. » En entraînant et en équipant les gardes-côtes libyens de bateaux pour renvoyer les migrants vers la Libye, les responsables européens participent à des souffrances épouvantables. Plus de 20 000 migrants, réfugiés et demandeurs d'asile sont détenus dans des centres de détention sans savoir s'ils seront libérés un jour. Leurs conditions de vie sont totalement inhumaines. Ils doivent faire face à des mauvais traitements, la torture, le viol et sont même parfois vendus, donc... Là, le jeune dont je ne vous dirai pas le prénom, il avait été vendu dans une exploitation de date pour vendu comme esclave. Il est crucial d'appeler les responsables libyens et européens à protéger les migrants et réfugiés des violations des droits humains commises en Libye. Il est urgent que les 20 000 migrants et réfugiés aujourd'hui aux mains des milices et des groupes armés soient libérés. Donc, s'il vous plaît, signez cet appel, parce que 2970 soutiens, c'est vraiment trop.
Non, on peut faire beaucoup mieux, c'est sûr. Donc, vous allez sur le site d'amnesty.fr, dans la rubrique Agir, vous avez toute la liste des
pétitions.
Et vous trouverez celle-là, effectivement. Donc, la liste vient de vous parler.
Et vous pouvez voir aussi, toujours, les pétitions aussi qui sont sur le site de RESF 27 et qui appellent à la régularisation de jeunes qui sont sans papier et qui souhaitent pouvoir rester en France pour pouvoir continuer leurs études, pour pouvoir être régularisés. Donc, allez aussi sur ce site et signez aussi les pétitions qui y sont. Merci.
Ok. On s'écoute un peu de musique.
Il n'avait pas idée, il n'avait pas conscience à quel point lui manquait les terres de son enfance, la cordillère des Andes, les cocottes en papier, le fumet de la viande, la confiture de lait. Il n'avait pas idée, on dira inconscience, à quel point lui coûtait d'être bloqué en France, rejoindre le pays, l'odeur de l'orchidée, le temps n'a pas enfoui, El Dulce de Leche. Il faudra reprendre la route, devenir français coûte que coûte, réfugié dans un tiroir. On passe le temps, on garde espoir. C'est ça, être français, j'en doute. Il n'avait pas idée, il n'avait pas conscience, comme peuvent marquer les blessures de l'enfance. Une larme à Paris, une rose pour Pinochet, le temps n'a pas enfoui le palais d'Aliende, comme il avait souri en parlant de la France. Il raconta sa vie, ses années de silence, les tonnelles en fleurs, le sang sur le pavé, le départ pour l'ailleurs, El Dulce de Leche. Faudra reprendre la route, devenir français coûte que coûte, réfugié dans un tiroir. On passe le temps, on garde espoir. C'est ça, être français, sans doute. Mais c'est sans suffisance, on ne peut qu'imaginer les parcours de l'errance, le prenant par la main, elle a mis, on y est, la famille, les copains, la confiture de lait. Il faudra reprendre la route, devenir français coûte que coûte, réfugié dans un tiroir. On passe le temps, on garde espoir. C'est ça.
Donc, on vient d'entendre Trio, bah, vous l'avez reconnu, hein, effectivement.
On m'a peut-être entendu aussi.
Oui, on a entendu aussi Edith qui a fait un petit commentaire en cours de route. Elle n'avait pas fait attention que les micros étaient réouverts. Donc, une chanson qui n'est pas d'hier, mais qui est tout à fait de circonstance. Voilà. Je pense qu'il y a Renan, quand même, après ces interventions un petit peu difficiles, il y a Renan qui va parler plus positif, qui va vous parler de bonnes nouvelles.
Oui, en fin de compte, je vais parler de bonnes nouvelles. Je vais faire un petit peu un résumé de l'année 2017. Donc, le changement est possible, surtout lorsque les gens se réunissent et agissent ensemble. De l'écriture de lettres de soutien aux actions menées devant les sièges d'entreprise, en passant par l'accueil de réfugiés chez Sceaux et l'amélioration de lois, l'espoir était plus fort que la peur à plusieurs reprises en 2017. Et tout cela grâce à vous. Donc, je vais faire mois par mois. Donc, en janvier, libération d'éminents prisonniers gambiens. En février, la fermeture du camp de réfugiés de Dab Dab a été interrompue. Et où se trouve ce camp ?
Au Kenya.
Bien.
C'est le
bien.
Plus grand camp. Bien. Il y a 200 000 personnes. Oui. Ouais, elle a des antisèches, Claire Lise.
Mais non, parce que j'ai un article pour tout à l'heure sur les réfugiés somaliens.
En février, toujours, le journaliste emprisonné le plus longtemps au monde a été libéré. Son nom.
Oh, c'est trop dur, ça.
Quand on nous fait un quiz, on n'est pas au courant.
Ouais, c'est trop dur, ça.
Mohamed Bekjanov.
Je l'avais dit.
Quand
il a été relâché après avoir passé 17 années derrière les barreaux en Ouzbékistan.
Ah oui.
Ouzbékistan.
Tout à fait. D'accord. En mars, l'Argentine ne considère plus une fausse couche comme un crime.
C'est une bonne nouvelle, ça.
Tout à fait. En avril, Apple est la première entreprise à publier une liste de ses fournisseurs de cobalt. Je ne sais pas si depuis, si Samsung a...
Non, ça n'a pas bougé.
Il y a les Chinois, l'autre fois, on en avait parlé l'autre fois.
Samsung n'a pas bougé pour l'instant.
En avril, toujours, et ça c'est proche de chez nous, et c'est un pays que j'adore, l'Irlande se dirige vers une réforme de la législation sur l'avortement.
Oui, j'en avais parlé dans une émission il n'y a pas très longtemps, l'avortement en Irlande.
Tout à fait. Et en avril, toujours, vos actions ont sauvé des vies en Iran et aux États-Unis.
Bien.
Au mois de mai, Taïwan dit oui au mariage pour tous. Au mois de mai, toujours, Chelsea Manning est libre. Tiens, tu peux peut-être expliquer qui c'est
Chelsea Manning, oui, c'était un transsexuel américain.
Tout à fait.
Qui était en prison du fait de, effectivement, de sa.
Parce que l'armée
était militaire.
Pas.
Voilà. Quelqu'un qui était militaire et qui est tout en étant militaire, qui est devenu transsexuel et l'armée refusait son changement de sexe.
Et on avait.
Et elle s'est retrouvée en prison.
Signé pour elle pendant les
10 jours,
les 10 jours de l'année d'avant, 2016.
Voilà, 2016.
Tout à fait.
C'est ça.
Non, on 2015.
Est tous calés quand même.
Non, 2015.
2015. Ah oui, j'avais du mal à reculer d'une année. Voilà.
Et toujours mois de mai, au Pérou, une décision historique pour les défenseurs de l'environnement. C'était l'action, je sais, s'intenter contre les défenseurs des droits humains. Maxima Acuna. On en avait parlé.
Ouais, oui.
Et là, je vais finir avec le mois de juillet. Un militant écologiste a été remis en liberté. Je ne vous demanderai pas son nom non plus. Clovis Razafimalala.
Ça, on a signé pour lui cette année. Oui. C'est Madagascar.
Madagascar,
effectivement. Il est venu à Paris.
Il est venu à Paris au mois de décembre. Mm.
Et en juillet, toujours, des entreprises ont été obligées de répondre aux atteintes des droits humains dans les plantations de palmiers par rapport à l'huile de palme. Donc, voilà. Je finirai tout à l'heure.
Oui.
J'ai fait la moitié de l'année.
Tu fais l'autre moitié de l'année après ?
Tout à fait. Oui, et puis il y a Eddie qui veut nous parler, je crois, de la Turquie.
Voilà, moi je vais vous parler d'un portrait qui est paru dans la chronique, vous savez, le journal d'Amnesty qui paraît tous les mois. Et bien là, ils en ont fait même pour deux mois, c'est décembre-janvier. Là, c'était la fin d'année. Où il y a plein d'informations et aussi des articles un petit peu plus, longs. Hein. Donc là, c'était le portrait, c'est d'Asli Erdogan. Alors attention, Erdogan, oui, ça vous fait penser au président
oui,
de
mais
la
c'est
Turquie.
Comme Dupont.
C'est à peu près ça. Alors
mais
j'ai appris
qu'Erdogan,
ça signifie « né comme un homme ». Voilà, c'est ce qu'elle dit. Mais elle dit qu'elle a juste cette homonymie fortuite avec le président turc. Parce que donc, Asli Erdogan, à 50 ans, c'est une femme qui a connu très jeune des périodes de violence ou de grande souffrance, car son père était un militant de gauche estudiantine dans les années 60 et 70 et qui vivait sous la menace permanente d'une arrestation. Cet homme a été torturé, détenu à plusieurs reprises et son séjour sous les drapeaux l'a transformé. Il est revenu dans sa famille violent et avec des tendances paranoïaques. Donc cette petite fille a vécu avec des moments de souffrance. Elle était elle-même une petite fille très douée, donc avec un QI supérieur. Elle a pu avoir accès à des grandes écoles, mais elle a été un petit peu en difficulté pour ses relations avec les autres. Et elle avait beaucoup d'envie de s'intéresser à la littérature, mais ses bons résultats scolaires ont fait qu'elle a été orientée pour une carrière scientifique. Et dès 24 ans, elle devient une spécialiste pointue en physique nucléaire et embauchée au CERN, le centre de recherche nucléaire à Genève, en Suisse. Donc pendant plusieurs années, elle continue à être scientifique, elle va vivre aussi à Rio, mais cela ne lui correspond pas. Et la nuit, elle écrit. Et petit à petit, à partir du moment où ses romans ont eu du succès, elle arrête sa carrière scientifique. Et son succès est présent en Europe occidentale et notamment en France. Donc Asli Erdogan a continué à écrire, mais aussi à écrire des chroniques dans des journaux qui avaient plutôt comme support les Kurdes. Et donc elle a signé des éditos, elle a aussi soutenu les Kurdes quand il y a eu des campagnes de viol des jeunes femmes kurdes utilisées comme armes de guerre, hein, le PKK. En Turquie, c'est un mouvement de défense d'autonomie kurde qui est vraiment interdit en Turquie. Donc elle faisait partie d'un journal où jusqu'en 2015-2016, bon, il était supporté par le gouvernement parce qu'il savait que ce n'était pas, il n'émanait pas du PKK, mais simplement un journal de défense. Mais quand il y a eu le coup d'État en 2016... Elle s'est retrouvée le 17 août 2016 avec deux compagnies de policiers antiterroristes débarquant dans son appartement. La justice turque l'accuse d'aide à une organisation terroriste pour avoir écrit des chroniques dans ce journal pro-kurde, Özlü Gündem. D'autres journalistes et chroniqueurs sont aussi poursuivis. Et elle restera, elle, on a l'impression qu'ils ont fait vraiment un exemple avec elle parce qu'elle est connue en Turquie, elle restera incarcérée 136 jours avant d'être remise en liberté sous contrôle judiciaire en décembre. Mais elle reste actuellement sous la menace d'une peine de prison à vie. Alors, elle commente un peu cet état de choses très douloureux. Une fois que vous savez ce que c'est la prison, que vous l'avez vécue, c'est une torture plus grande encore que d'être dehors et de savoir que vous pourrez y retourner. Vous savez à quel point c'est douloureux, redoute-t-elle. Donc ce qu'elle peut nous expliquer aussi, c'est que pendant qu'elle a été emprisonnée, elle était emprisonnée dans le quartier des militants kurdes. Et elle dit effectivement, certaines femmes étaient sûrement des militantes du PKK, mais d'autres comme moi se sont retrouvées absolument emprisonnées sans aucune appartenance à ce mouvement. Et elle va nous donner la lecture de deux cas qui est vraiment, voilà, quand on lit ça, on a les yeux qui s'ouvrent et s'écarquillent. Et Didier va faire cette lecture.
Voilà, je vais prendre la voix de Esli Erdogan. Une jeune femme, par exemple, était là parce que sa sœur était recherchée. Comme on n'avait pas pu l'attraper, on a arrêté sa sœur. Elle risque d'y passer au moins 5 ans. Il y avait une autre femme très jeune, elle travaillait à l'hôpital. Elle était là parce qu'elle avait transmis le rapport médical d'un homme sur qui la police avait tiré en pleine rue et qui était resté paralysé. La justice n'a jamais enquêté sur le policier, mais elle a fait arrêter l'infirmière qui a remis le rapport à l'administration. Elle était persuadée qu'elle allait être libérée dès la première audience. Mais elle est revenue en cellule. Idem les fois suivantes. Elle a réalisé qu'elle allait sans doute prendre 5 ans. D'autres n'ont fait qu'aller à des manifestations légales et sont condamnées à des peines de 5, 7, 9 ans.
Voilà. Donc on voit l'incohérence de cette justice. Asli Erdogan dit « Mon dossier est vide, mais ils me traduisent en justice en toute connaissance de cause. Je suis face à un pouvoir infini, celui de l'État, du gouvernement, des juges, des procureurs, mais que puis-je faire à part leur répéter ma version des faits et leur dire qu'ils ont tort ?» Depuis qu'elle est sortie en prison, elle dit qu'elle a du mal à écrire. Elle avait commencé un carnet de bord du fascisme. Et c'est la première fois, dit-elle, que j'utilise ce mot sans guillemets. De plus en plus de gens l'emploient et parlent d'un régime fasciste. Le but maintenant est un changement total de régime et de société vers un pouvoir unipersonnel. Le racisme a aussi considérablement augmenté en Turquie, les pogroms contre les Kurdes, mais aussi contre les Syriens, la haine des intellectuels. Le pouvoir n'a jamais été monopolisé à ce point et il y a une idéologie qui justifie ses orientations. Alors moi, je l'ai entendu aussi sur France Inter, là, dernièrement, sur l'émission L'Heure Bleue avec Laure Adler. Et je voulais finir ce que j'ai pu vous dire sur Asya Erdogan pour l'entendre elle-même. Donc, Ronan, à toi.
Asya Erdogan, on vous connaît en France depuis la première publication de vos livres. Vous avez différents genres littéraires. Vous êtes à la fois poète, écrivaine et aussi journaliste. Vous êtes révélée très rapidement une militante des droits de l'homme dans votre propre pays, la Turquie. C'est aussi pour cette raison que vous venez de recevoir le prix Simone de Beauvoir en France. Aujourd'hui, quelle est votre situation? Nous avons toutes et tous suivi votre procès en Turquie à la suite de la tentative du coup d'État en juillet 2016. Puis ensuite votre emprisonnement, puis ensuite votre sortie de prison. Quelle est votre situation précise aujourd'hui?
Le procès est toujours en train de se poursuivre.
Il
n'y a pas de jugement définitif et donc c'est très effrayant pour moi. Probablement ça aura lieu au mois de mars. On va voir ce que va réclamer le procureur. Est-ce que ce sera perpétuité, 5 ans, peut-être, est-ce que je peux avoir un peu d'espoir de libération? On saura a priori au mois de mars. Au plus tard, dans 2 sessions, il y aura vraiment le jugement définitif.
D'après les organisations des droits de l'homme internationales qui essayent très difficilement de travailler en Turquie, il y aurait 50 000 personnes détenues dans les prisons. Cela vous paraît vraisemblable aujourd'hui, Asli Erdogan?
Je ne pense pas que ça reflète la réalité. Il s'agit plutôt de 100 000 personnes, à mon avis. Lorsque moi j'ai été arrêté, c'était déjà autour de 40 000 personnes.
Quand
ils jouent quand même pas mal avec les statistiques et les chiffres.
Mais
chaque semaine, on a quand même des chiffres officiels des gens qui sont en état d'arrestation. Je poursuis très sérieusement ces chiffres. Aucune semaine n'a été en dessous de 1000 personnes.
Ce qui vous donne une idée,
un an et demi à raison de 1000 par semaine, ça s'approche très facilement des 100 000. Il faut ajouter à ça les premières personnes arrêtées juste après la tentative de coup d'État qui étaient déjà très très nombreuses. Certains parmi ces 100 000 personnes ont déjà été libérées, comme moi. Donc le chiffre n'est pas très exact. Mais on sait que les prisons sont des centaines de fois au-dessus de leur capacité. 100 000 personnes de trop, en tout cas, dans les prisons. Donc c'est une situation vraiment déplorable.
Notre président de la République en France a reçu il y a quelques jours votre président. Comment jugez-vous cet entretien? Et cela va-t-il permettre la libération de quelques détenus et accélérer les droits de l'homme dans votre pays, la Turquie, Asli Erdogan?
Le gouvernement français n'a pas rencontré M. Erdogan pour discuter vraiment des droits de l'homme en Turquie, à ce que je sache. J'aurais aimé que ce soit le cas. J'ai pas du tout envie que les portes soient fermées avec la Turquie. Mais je pense que les vraies raisons derrière cet entretien, c'était des contrats de vente d'armes. Système défensif.
Bu da bence kapitalizmin bir zaferi.
Donc c'est une victoire du capitalisme, on peut dire.
Hatta Fransa'nın kendi değerlerine karşı.
Et peut-être même on peut dire que c'est une victoire gagnée contre les valeurs mêmes de la France.
Çünkü her ne kadar Fransa gazetecileri hatta Bay Macron da
c'est vrai que la France protège les journalistes
eleştirse de
et monsieur Macron critique le gouvernement turc
Erdoğan bunu Türkiye'de bir zafer gibi sundu.
Mais Erdoğan a quand même présenté cet entretien comme une victoire qu'il a remporté lui dans la presse turque.
Avrupalılarla istediğim gibi anlaşıyorum.
Je fais les deals que je veux avec les dirigeants européens.
Gibi sunuyor.
Ça a été présenté comme une victoire pour Erdoğan, donc ça a vraiment fait ses affaires en Turquie, malheureusement.
Alors là, vous avez juste quelques minutes qui me semblaient importantes, et puis pour entendre la voix de Asli Erdoğan. Mais cette émission, vous pouvez complètement la revoir sur le site de France Inter. Donc je vous rappelle. La réécouter, oui. Oh non, il est trop bien, trop fort. Ben oui, mais on peut voir parce qu'il y a une petite photo quand même sur le site de France Inter, c'est pour ça. Donc, je vous rappelle l'heure bleue, le vendredi 12 janvier. Donc voilà, c'est tout à fait intéressant jusqu'au bout. Et Didier, la Turquie, ça te fait penser
si, à... Si, pendant qu'on parlait de la Turquie, effectivement, bon, on ne peut que regretter d'abord que M. Macron, finalement, n'ait pas beaucoup évoqué les droits humains.
Voilà, je trouve que son analyse est bonne.
Contrairement à ce que la presse française disait, finalement, ça n'a pas été le sujet vraiment important de leurs entretiens, comme c'est bizarre. Et ben, ça nous permet aussi de penser toujours au président d'Amnesty Turquie, Taner Kilic, qui est toujours en prison.
Qui fait partie des 100 000 en prison.
Voilà, qui fait partie des 100 000, qui est accusé d'appartenance à une organisation terroriste sur un dossier qui est absolument vide. La preuve a été faite que le dossier était vide. Mais pour l'instant, effectivement, la prochaine audience de son procès aura lieu le 31 janvier. Donc on continue à se mobiliser pour lui. Et voilà, il y a encore des appels à l'action. Là aussi, vous pouvez aller sur le site d'Amnesty signer la pétition. Et il y aura sûrement d'autres actions aussi mises en ligne. On demande bien évidemment la libération sans condition et immédiate de Taner Kilic, président d'Amnesty Turquie.
Alors juste, c'est les gens qui sont intéressés pour lire les œuvres d'Asli Erdoğan, j'ai oublié de vous dire qu'il y avait beaucoup de livres à la collection Actes Sud. Donc allez voir Actes Sud et vous allez trouver les noms. Je ne vais pas vous les donner tous.
Voilà. Il y avait Clarisse qui voulait reprendre la parole. M'a-t-on soufflé à l'oreille ?
Eh bien, je vais vous reparler du fameux camp. C'est comment il s'appelait le camp
Ah, Renaud, il a perdu la page.
Renaud, il a pris sa zouille.
Il est pris à son propre coup.
Le camp de Dadad, dont on a parlé tout à l'heure. Donc, en fait, effectivement, j'avais prévu de vous parler des réfugiés somaliens qui sont renvoyés vers l'enfer. Donc, il y a beaucoup de Somaliens qui s'étaient réfugiés au Kenya, dans ce fameux camp qui accueille plus de 240 000 personnes. Donc, insécurité, sécheresse, famine. Les milliers de réfugiés somaliens qui ont été poussés à partir du camp de Dadaab, au Kenya, pour rentrer en Somalie, font de nouveau face à de terribles fléaux. Donc, pour la petite histoire, en mai 2016, le gouvernement kényan avait annoncé son intention de fermer le camp de Dadaab, le plus grand du monde. Les renvois vers la Somalie se sont alors drastiquement accélérés. Les personnes qui sont rentrées vivent dans des conditions très difficiles, dans des villes surpeuplées ou des camps pour personnes déplacées en Somalie. Beaucoup ont déclaré avoir quitté Dadaab en raison des rations alimentaires et des services qui se raréfiaient ou en raison de la peur attisée par le gouvernement kényan d'être renvoyé de force et sans aucune aide. Le camp de Dadaab, c'est un échec pour la communauté internationale. Donc son immense site dans l'est du Kenya accueille actuellement près de 240 000 personnes. Donc en mai 2016, le gouvernement kenya avait annoncé qu'il allait fermer le camp, invoquant des préoccupations liées à la sécurité nationale et le soutien insuffisant de la communauté internationale. Un facteur clé qui incite le gouvernement kenyan à renvoyer les Somaliens, c'est le manque de soutien de la communauté internationale. Les financements destinés à venir en aide aux réfugiés au Kenya ont nettement diminué depuis 2011, et ce, beaucoup plus rapidement que le nombre de réfugiés. En novembre 2017, l'appel de fonds du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, en faveur des réfugiés au Kenya, était financé à hauteur de 29% seulement. Au cours de la même période, le Programme alimentaire mondial, le PAM, a également connu un sous-financement régulier et chronique, le contraignant à réduire à plusieurs reprises la valeur des rations alimentaires distribuées aux réfugiés. En novembre 2016, donc nous avions constaté que des représentants du gouvernement ont menacé des réfugiés et leur ont dit qu'ils devraient partir. Ce qui laisse planer de forts doutes quant au caractère volontaire de ces retours. Les renvois vers la Somalie se sont alors accélérés et se sont poursuivis après que la haute cour kényane a jugé la fermeture du camp illégale en février 2017. De plus, la plupart de ceux qui rentrent en Somalie ne peuvent pas retourner chez eux et l'accès à un abri est un problème de taille. Presque toutes les personnes que nous avons interrogées ont déclaré qu'elles n'avaient pas pu trouver de logement adapté et beaucoup vivaient dans des campements pour des personnes déplacées ou aux alentours. La Somalie est ravagée par la guerre depuis des décennies et entre janvier 2016 et octobre 2017, 4585 victimes civiles ont été recensées. Le groupe armé Al-Shabaab contrôle une partie importante du pays et se livre à des attaques menées sans discrimination, qui ont fait des centaines de morts et de blessés parmi la population civile au cours de l'année passée. Dans ce contexte d'insécurité, la situation humanitaire en Somalie continue de se détériorer. Le pays fait face à une terrible sécheresse et la menace de la famine perdure. Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, plus de la moitié de la population a besoin d'une aide humanitaire. Ces différents facteurs ont déclenché des déplacements massifs de population. En novembre 2017, on comptait en Somalie 2 100 000 personnes déplacées à l'intérieur du pays. Beaucoup s'entassent dans des zones urbaines, soumettant les ressources à une très forte pression. L'absence d'eau potable en Somalie a déclenché une épidémie de choléra qui a fait au moins 1155 victimes entre janvier et juillet 2017. Dans ce contexte, il est clair que la Somalie n'est pas prête pour accueillir ceux et celles qui sont renvoyés massivement du Kenya. Il est encore temps que la communauté internationale agisse. Elle peut encore fournir une aide technique et financière au gouvernement kényan afin de favoriser des solutions durables et pérennes pour l'intégration des réfugiés dans le pays. Cela suppose notamment de financer complètement l'appel de fonds du HCR pour le Kenya, d'augmenter le nombre de places de réinstallation et de promouvoir d'autres solutions pour les réfugiés somaliens. Voilà, bonne année.
Bonne année, oui. Et merci Carlis, j'avais dit un tout petit mot, mais très vite fait, notre émission la dernière du mois de décembre, où j'avais signalé que M. Donald Trump avait décidé de fermer complètement les frontières des États-Unis à tout réfugié somalien.
Mais c'est des pays de merde, il a dit.
Voilà, et que c'était le pays qui recevait le plus de réfugiés somaliens, c'était les États-Unis. M. Trump a fermé les frontières, donc il condamne effectivement, comme je l'avais dit au mois de décembre, un certain nombre de milliers de Somaliens à mort. Si rien ne change.
Les propos de M. Trump qui se trompent, ils n'engagent que lui. Et puis oui. Je pense qu'il y a eu quand même là beaucoup de pays qui se sont manifestés à l'ONU pour exiger des excuses par rapport à ces propos qui sont.
Oui, mais là va falloir aussi qu'il mette un peu plus de sous parce que là aussi il veut enlever tout l'argent des États-Unis dans toutes les ONG en se demandant si c'est vraiment utile. Plutôt les Américains, the first. Hein, voilà,
oui,
c'est ça.
Mais enfin bon, on attend qu'il y ait des gens quand même qui sont des dangers pour l'avenir des relations humaines, quittent leurs fonctions quand même, il faut être tout à fait clair.
Et pour être équitable, on va dire que l'Europe a aussi besoin de se regarder un petit peu dans les yeux.
Tout à fait, complètement.
Actualité.
T'es abonné aux bonnes nouvelles, donne-nous quelques bonnes nouvelles.
Attention, parce qu'il y a une actualité locale, et on se dira au revoir.
Ça va faire en 30 secondes.
Allez.
Voilà. Donc je continue tout.
On était en juillet. Raconte-nous la suite.
Il faisait beau et tout ça.
Eh ben non.
Zut.
Je passe au mois d'octobre.
Pas de bonnes nouvelles.
Entre juillet et octobre, il y a...
C'est les vacances pour tout le monde.
Allez, vas-y, octobre.
Octobre, la libération de la directrice d'Amnesty International Turquie.
Ah bah oui, mais il nous reste encore du monde en prison.
Il y a encore Tahir Kilic qui est en prison.
Tout à fait. En novembre, des adolescents norvégiens se mobilisent pour leurs camarades. Est-ce que quelqu'un se rappelle de ça?
Oui, mais j'ai plus tous les détails en tête pour être tout à fait franc. Donc... C'était pour l'accueil de réfugiés aussi, je crois.
Des milliers d'adolescents rejoignent une grande marche au Flambeau pour exprimer leur solidarité avec Taïb Abbasi.
C'est ça.
Qui est une jeune fille de 18 ans qui vit dans la peur d'être expulsée vers la rue Al-Dislam.
C'est ça.
En novembre, toujours, condamné à mort pour un message sur Facebook, il est enfin libre. On pense qu'en 2017, on peut être condamné à mort par message sur Facebook.
Ben oui. Il y en a de plus en plus hein, quand on voit les...
Oui. Et je continue en novembre. Ouverture d'enquête sur le travail des enfants. Et dans quel pays?
Oh bah là, on peut faire beaucoup de pays, là. Attends, je crois qu'il faut que tu donnes la réponse, parce que sans ça, ça sera pour le mois prochain.
Moins de suspense, Renan, là.
Alors, et novembre, nous avons révélé que du matériel illégal de torture était à Paris.
Ça, c'était à Paris.
Et ça, j'en avais parlé.
Voilà. Bon, actualité locale, très vite fait. Donc, nous serons, mardi prochain, nous serons avec le groupe de nos amis du groupe d'Amnesty Louviers. Au grand forum à Louviers, à l'invitation du Tangram Scène Nationale, comme disait Edith, pour un spectacle de danse qui s'appelle We Love Arabs, nous aimons les Arabes, traduction, et je vous lis juste la présentation du spectacle. We Love Arabs est l'histoire drôlatique d'un chorégraphe israélien qui cherche un danseur arabe pour créer une pièce porteuse d'un message de coexistence et de paix. Une entreprise réussie de démolition du mur des préjugés, exécuté avec humour et subtilité. Donc voilà, un spectacle à ne pas manquer. On y sera, We Love Arabs.
20h.
Mardi prochain, 20h.
Au forum
à Grand Louvier. Au grand forum.
Au grand forum.
Il y a Renan qui me stresse avec le générique. Au grand forum de Louvier. Et on voulait vous dire que notre prochaine émission, partout c'est le...
Dans 15 jours. Oui, le 30. Le 30.
Mardi 30, 19h en direct.
Bonsoir.
Allez, bonne soirée.
Fermé.